Dans ma superbe ville de Liverpool, une personne sur trois est dans la pauvreté alimentaire. Ça me brise le cœur. 11 millions de personnes au Royaume-Uni sont en situation d'insécurité alimentaire. 4,3 millions d'enfants ont faim. Ma boîte mail est pleine de messages de gens terrifiés. Des parents viennent me voir en disant « On touche le fond, on coule. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Qu'est-ce que vous pouvez faire ?» 12 années d'austérité brutale ont laissé nos communautés et nos villes comme Liverpool et beaucoup d'autres villes complètement sans défense. On le voit avec nos banques alimentaires qu'on gère avec notre association FSF. Et Dave Kelly est là ce soir, je ne peux pas le voir, mais il est là. Il est le cœur bleu de l'asso FSF avec Robbie Daniels. Cette année, on a distribué et nourri près de 78 000 personnes. Il n'y a pas deux manières de le dire. Ce pays est complètement brisé. Trop, c'est trop. Et si on est tous solidaires, on ira à la victoire.
Au Royaume-Uni, la pauvreté atteint des niveaux jamais vus depuis plusieurs décennies. Confrontés à une inflation galopante et des conditions de travail de plus en plus précaires, des milliers de Britanniques ont faim. Face à un État-providence inexistant, reste l'entraide. À Liverpool, les supporters des deux grands clubs de foot de la ville, ordinairement ennemis, avec le club d'Everton, se sont réunis il y a 7 ans pour construire un immense réseau de redistribution alimentaire qui depuis a essaimé dans tout le pays. Et selon ses fondateurs, ce petit miracle a un nom, la solidarité de la classe ouvrière. Ce documentaire intitulé « Le foot solidaire, les bons supporters anglais » a été proposé dans le cadre du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société, en compétition des films de moins de 40 minutes qui s'est déroulé du 28 mai au 2 juin à Douai. Avant de retrouver Frédéric Zingaro et Mathilde Bonacieux, réalisatrice de ce documentaire, je vous propose d'écouter quelques réactions d'élèves du lycée polyvalent de Loti de Doullens, propos recueillis à l'issue de la projection.
Moi, je pense qu'il a vraiment été marquant. Enfin, c'est choquant un peu de voir la misère dans un pays qui est à une mère de nous, enfin, il est vraiment pas loin de chez nous et on voit vraiment la misère dans laquelle vivent les gens et la façon dont ils ont un peu été abandonnés par leur gouvernement et comment ils essayent de lutter contre ça, mais c'est vraiment à la fois, comme le disait un des spectateurs, choquant, mais révoltant, mais aussi ça fait du bien parce qu'on voit qu'il y a quand même des gens qui essayent de changer les choses, de réagir et d'aider les autres, quoi. Et le fait que ce soit autour du football par exemple, qui réunit beaucoup de monde, qui est un sport populaire, ça renforce en plus la solidarité des supporters et la solidarité des Anglais entre eux, quoi.
Et ces personnages, justement, est-ce qu'il y en a un qui t'a un peu plus marqué que d'autres ?
Comme le disaient les deux réalisatrices, moi j'ai bien aimé la dame qui parlait des horaires de son mari et le fait qu'il s'en sortait pas alors qu'il cumulait deux travaux qu'ils n'arrivaient pas à s'en sortir et qu'ils étaient obligés d'aller à la banque alimentaire alors qu'ils cumulaient les petits boulots, quoi. Enfin, c'était vraiment un peu choquant, quoi.
C'est quand même assez choquant de voir que dans un pays qu'on croit développé ou autre, qu'on pense pas qu'il y ait une misère aussi importante qui soit présente. Et ça nous permet de découvrir les différences entre les pays, même alors qu'ils soient à proximité des nôtres.
C'est des supporters de foot qui sont normalement opposés. Est-ce que tu penses qu'on pourrait imaginer des supporters de Paris Saint-Germain et des supporters de Marseille faire la même chose ?
Bon, après, c'est deux clubs qui sont assez séparés par la distance, mais je regarde pas spécialement le foot, mais...
C'est surtout deux clubs qui se détestent.
Je pense qu'au niveau de la solidarité, on pourrait tout de même trouver un accord entre les deux. Ça doit pas être si compliqué que ça. Après, oui, c'est vrai qu'il y a des rivalités, des petites confrontations, mais... Ça reste un sport, c'est là pour s'amuser, se divertir ou autre.
De premier abord, je dirais que c'est une thématique qui peut paraître un peu vague ou, ou ne pas trop nous parler justement, mais ce reportage qui est assez court nous permet de vraiment visualiser le problème que peuvent rencontrer les classes populaires anglaises, et je pense que c'est un sujet, une thématique auquel on ne pensait pas forcément avant.
Tu aurais imaginé, toi, des grandes villes comme Liverpool, justement, qui est assez connue, hein, c'est peut-être l'une des villes avec Londres, etc. Tu aurais imaginé que c'était une ville très très pauvre ?
Non, justement, et je pense que beaucoup d'entre nous ne l'ont pas forcément réalisé, et je pense qu'on associe beaucoup ces sujets de pauvreté avec des pays moins développés, et un pays tel que l'Angleterre, qui est quand même assez similaire à la France, qui subit des problèmes pour s'alimenter aussi graves. Je pense que ça peut nous permettre de nous questionner nous-mêmes sur l'état de l'alimentation en France.
Liverpool, la misérable, et ses habitants, les Scousers, comme on les appelle, les affamés. Si autrefois cette appellation était une simple provocation des autres villes, elle est devenue une réalité. Avec la hausse des prix de l'énergie et des budgets de plus en plus inexistants, Liverpool fait partie des trois premières villes les plus pauvres de l'Angleterre. Pauvre, mais fière et joyeuse de défendre les couleurs de ses deux clubs de football, Everton et Liverpool FC. Tous deux des champions de Premier League, et tous deux extrêmement riches. Deux cathédrales dressées au cœur des quartiers pauvres. Ce contraste a profondément agacé deux supporters de ces deux clubs ennemis. Dave Kelly ne se rêve qu'en bleu. Il n'a jamais raté un match de son équipe d'Everton. Il a pourtant traversé la rue pour s'associer à Ian Byrne, le rouge du Liverpool. Ensemble, ils changent un peu de ce quotidien tragique. Avant chaque match, ils se retrouvent aux abords d'un des deux stades pour parler non de foot, mais de logistique et de boîtes de conserve.
Merci, jeune homme. Ce qu'on dit, c'est que si chaque personne qui vient au match amène une boîte de conserve, on aurait au moins 50 000 conserves à chaque match.
Avec leur copain Robbie et une équipe de bénévoles, tous supporters, ils ont décidé de monter une banque alimentaire. Mais une banque qui ne serait pas l'otage des caprices d'un riche philanthrope, mais qui viendrait de la solidarité des classes populaires elles-mêmes.
On retrouve à présent les réalisatrices Frédérique Zingaro et Mathilde Bonacieux de ce documentaire. Frédérique Zingaro, bonjour.
Bonjour.
Et puis Mathilde Bonacieux, bonjour.
Bonjour.
Donc réalisatrice du film Le Foot Solidaire, les bons supporters anglais. C'est marrant parce que on s'imagine mal justement que les supporters souvent sont considérés les hooligans. Alors je sais pas si le titre du film justement fait la transformation. Bah, ils sont pas tous mauvais finalement.
Bah, l'idée c'était justement pas de les appeler les bons hooligans parce que non, mais parce que ça les fait pas rire du tout en fait les supporters, parce qu'ils ont perdu des amis, ils ont perdu leurs enfants parfois dans les stades, et donc ils ont réformé les deux clubs pour qu'il y ait plus jamais ça. Parce que devant les clubs, il y a toute l'histoire des tribunes qui se sont écroulées, des morts qu'il y a eu. Et tout le monde là-bas a perdu quelqu'un. Donc ils n'ont plus du tout envie d'être taxés comme ça.
Le film, évidemment, met en avant des supporters de Liverpool, notamment d'Everton. Donc en plus, les deux clubs se font face. Donc c'est ça qui est aussi intéressant. L'idée de ce film, hein, vous l'avez expliqué tout à l'heure avec l'entretien avec les enfants. Vous l'avez, normalement, c'était pendant le Covid. Et puis du coup, vous avez repris le tournage après, c'est bien ça ?
Oui, c'est ça. En fait, on avait eu l'idée pendant le Covid de suivre le fait que à cette époque, personne n'avait plus accès à rien dans un pays où, de toute façon, l'état social est très peu présent. Et donc, on avait remarqué cette initiative à Liverpool de ces clubs de foot qui se fédéraient et qui, à l'époque, faisaient du porte-à-porte pour apporter des colis alimentaires, etc. Donc, on avait voulu les suivre à cette époque. Ça n'avait pas été possible à cause de... à cause du Covid, où les caméras n'étaient pas acceptées, et donc on avait gardé l'idée en tête qu'on a pu faire par la suite.
C'est un peu les Restos du Cœur, mais version supporters de foot, en fait.
La différence, c'est que eux, ils sont vraiment, c'est eux-mêmes qui donnent, en fait. Donc, ils ne sont pas dépendants d'un mécène et d'un côté arbitraire, on va dire, d'un mécène qui décidera de donner ou pas, d'une banque ou je ne sais pas, ou d'un trust. Et surtout, ça ne désemplit jamais parce que les supporters sont toujours 60 000 d'un côté, 40 000 pour Everton, 60 000 pour Liverpool. Donc, ça ne désemplit pas. Et ils ont surtout exporté ce format dans toutes les villes d'Angleterre. En Angleterre, à la différence de la France, enfin, je crois, hein, parce que je ne suis pas spécialiste du foot, mais il y a souvent deux clubs de Ligue 1 dans la même ville. Donc, c'est vraiment des clubs ennemis, donc qui vraiment sont ennemis. Alors qu'en France, en général, un club de Ligue 1, c'est une ville et on a le PSG, Marseille de l'autre côté. Enfin, voilà.
On ne pourrait même pas imaginer d'ailleurs ça entre les supporters de Marseille et de PSG.
Alors cela dit, normalement on ne peut pas imaginer ça en Angleterre. Et encore moins quand ils se déplacent en Écosse, qui a parlé de l'indépendance et d'être indépendante du reste de la Grande-Bretagne. Donc normalement c'est pas possible. Et surtout qu'ils tiennent, c'est vraiment des fans de foot très très forts, hein. Ils ne ratent jamais un match. Et là ils se sont mis ensemble parce que la situation était assez déplorable. Donc c'est une solidarité ouvrière, comme ils le disent.
Le film met en avant aussi le climat social, hein, les services sociaux qui sont très peu présents. Est-ce que le Covid-19, justement, et le Brexit ont accéléré les choses, et c'est encore pire maintenant ?
Oui, on ne peut pas dire le contraire. Le Brexit, ça a effectivement accéléré les choses. Ce qui a aussi vraiment mis tout le monde dedans, c'est la crise de l'énergie qui a fait augmenter les factures de tout le monde. Ça a été vraiment très dur. Et le Covid, évidemment, c'est inévitable parce que le gouvernement anglais a soutenu un peu quelques entreprises et quelques bars, pubs, quelques commerces au départ pour le premier Covid. Mais après, ça a été terminé. Donc les gens ont eu beaucoup de mal.
Ce qui est intéressant aussi dans votre reportage, c'est qu'il y a une solidarité, puisque ce Yann et puis j'ai oublié le prénom, Dave, vont aussi soutenir les grévistes, le Enough is Enough également, où tout le monde se retrouve, même si c'est des mouvements qui sont très, comme les Gilets jaunes, hein, vous l'évoquiez tout à l'heure, est-ce que cette solidarité peut-elle donner des idées à d'autres, la banque alimentaire, je pense notamment, les services sanitaires et puis de santé, comment ça se passe à ce niveau-là? Parce que est-ce que le service de santé en Angleterre pourrait éventuellement aussi, lui, faire une sorte de banque pour aider les personnes qui sont en précarité?
Le service de santé en Angleterre, ça s'appelle le NHS et c'est vraiment la chose dont les Anglais sont le plus fiers. Évidemment, c'est compliqué. Il est vraiment en train de baisser considérablement. C'est aujourd'hui très très difficile d'avoir un rendez-vous avec un médecin, surtout après le Covid. Il y a beaucoup d'infirmières et de médecins manquants parce que, à cause du Brexit, il y avait beaucoup d'Européens qui sont retournés chez eux, hein, surtout après le Covid. Donc c'est quand même très compliqué, ce NHS, ce service de santé, mais ça reste quand même la fierté des Anglais. Et c'est vrai que, bon, normalement, le service de santé est entièrement gratuit. Donc c'est pas la bonne idée. Si la solidarité devait venir d'autre part, ou ce modèle devait être exporté autre part, je dirais que ça serait presque, pourquoi pas en Europe avec d'autres clubs de foot, en Afrique, au Brésil, dans tous les autres pays.
Après, c'est vrai que les banques alimentaires existent absolument partout, donc même au sein des écoles, elles ont leur banque alimentaire, et dans quelques hôpitaux aussi, parce que finalement le personnel hospitalier est aussi touché par la crise. Il y a aussi parfois des initiatives à l'échelle individuelle dans les hôpitaux de comptoirs avec des gens qui laissent de la nourriture ou des produits hygiéniques, etc.
Et puis c'est ce Yann aussi qui est devenu député, hein, alors qui ne sait pas, normalement il l'explique dans le film, dans sa famille personne n'a d'engagement politique. Ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est à double sens encore cette aide, puisque à un moment donné c'est des personnes précaires qui aident justement en signant une pétition pour qu'il reste député.
Oui, parce qu'il fait partie du Parti des Travaillistes, et le leader du parti a changé. C'était Jeremy Corbyn qui était très à gauche, et maintenant c'est Keir Starmer qui lui est plutôt un libéral. Et donc il a évincé, il a évincé tous les gens qui étaient proches de Jeremy Corbyn pour faire de son parti un parti qui va effrayer personne en Angleterre et va gagner les prochaines élections qui vont avoir lieu là le 4 juillet. Et de fait, ils sont vraiment pressentis pour gagner. C'est ça qu'il a voulu faire. Donc le Parti des Travailleurs qui était très... Bon, c'est pas lui qui a détruit les syndicats, hein, mais je veux dire qu'il y a eu d'autres personnes au Labour qui ont détruit les syndicats avant. Mais c'est vrai que lui, il a décidé non seulement de se libérer des syndicats, mais de tout ce qui ressemble à une gauche-gauche.
Alors j'étais étonné quand même que certaines personnes dans le film aient une sorte de nostalgie de Margaret Thatcher, qui a quand même fait beaucoup de mal hein, au pays. Et là on se dit, mais du coup ça doit vraiment, le système politique actuel, si c'est pire que Margaret Thatcher, c'est quand même assez abominable.
Non, ils ne sont pas nostalgiques, non. Ils disent juste que ce qui nous était arrivé de pire, c'était elle. Ouais. Et aujourd'hui c'est pire que, même sous elle, d'accord, en fait, on avait encore un état-providence, c'est plutôt ça qu'ils disent.
Je ne sais pas si le parti qui est donc en tête donc de l'Angleterre a un regard quand même sur cette banque alimentaire, puisqu'ils ont un député. Donc est-ce que ils, on va pas dire qu'ils vont dire que c'est pas bien, mais est-ce qu'ils s'expriment là-dessus?
Le parti conservateur?
Oui, le parti conservateur. Voilà, chercher.
Ouais. Bah, le truc, c'est qu'ils ont quand même dépecé complètement l'État-providence. Donc, de fait, quelque part, j'ai pas envie de dire que ça les arrange, mais enfin, au moins qu'il y ait des gens qui fassent ce qu'ils devraient faire. Théoriquement en tant qu'État, quoi, mais je crois qu'ils en ont,
Ouais, donc ça veut dire qu'en fait, ils disent, bon, c'est bien ce que tu fais, mais tu le fais tout seul dans ton coin, en fait, c'est ça.
Je voudrais pas dire de bêtises, mais enfin bon, il y a beaucoup de banques alimentaires en Angleterre, il y en a vraiment, vraiment énormément, même dans le film, elle dit qu'il y en a plus que McDonald's, enfin bon, c'est assez, c'est un truc qui se dit beaucoup là-bas. Mais il y a beaucoup de banques alimentaires, mais il faut savoir aussi que l'Angleterre, sans dire de bêtises, mais quand même, la mentalité n'est pas exactement la même chose. C'est presque normal que, par exemple, la reine fasse des œuvres de charité ou que les très riches fassent des œuvres de charité, par exemple. C'est ça qui est à peu près la normalité. Pas qu'on doit redonner dans un mode socialiste, hein, c'est pas du tout ça, mais voilà. Alors que là, c'est différent puisque c'est une solidarité populaire.
Et dernière question, comme ça parle un peu de foot, forcément, au travers de ce reportage, est-ce que les instances des clubs ou même les joueurs, on te regarde parce qu'on sait que les clubs sont très riches en Angleterre?
Alors, ils nous ont dit que les clubs avaient aidé parfois et qu'ils aident assez régulièrement. C'est pas des grosses sommes hein, qu'ils leur donnent, mais bon, voilà, ils font un petit geste de temps en temps. Et alors on parle de Liverpool et d'Everton parce que pour les autres je sais pas. Et il y a eu des joueurs de foot qui ont donné aussi à Liverpool et Everton. Ça c'est arrivé. C'est pas au regard des besoins, c'est pas une énorme somme, mais pour une personne particulière, même s'il gagne des millions, c'est quand même déjà louable.
Ils ont décidé d'exporter leur modèle de collecte dans tout le pays. Ils ont déjà convaincu les clubs de Manchester, de Leeds, de Newcastle, de Birmingham. En tout, une quarantaine de clubs de foot font désormais partie du réseau. Et aujourd'hui, ils partent à Glasgow, en Écosse.
On va en Écosse, c'est la première fois, car la chose réellement importante dans tout ça, c'est qu'il s'agit de supporters de la classe ouvrière qui font preuve de solidarité avec la classe ouvrière.
Les supporters des Celtics, l'un des deux grands clubs de la ville, les ont appelés à l'aide.
Salut, content de te voir.
Partout dans le pays, la pauvreté augmente et les banques peinent à récolter des dons. Mais le miracle, c'est que leur système ne connaît pas de pénurie. Avec une conserve par match, la solidarité des fans ne peut pas faiblir.
C'est super que vous soyez venus. C'est bien d'avoir cette solidarité. Mais le plus important, c'est qu'on puisse voir comment vous faites.
Vous êtes déjà bien organisé avec le van et tout le reste, c'est génial. Maintenant, vous devriez faire un partenariat avec le club pour pouvoir vous installer là-bas, par exemple.
Unir les Anglais entre eux n'était déjà pas simple. Mais unir les Anglais aux Écossais qui, depuis le Brexit, reparlent d'indépendance, la tâche est plutôt ardue. Et pourtant, devant le stade, les supporters des deux camps ont répondu présent.
Ne soyez pas déçus s'il n'y a pas grand-chose. C'est votre première collecte. Même si ce n'est qu'une conserve, ça fera la différence pour quelqu'un et ça en vaut la peine.
On a rejoint Dave car je crois vraiment que l'activisme des supporters peut être immense dans tous les pays. La misère est énorme en Écosse, comme partout au Royaume-Uni. Presque un tiers de nos enfants sont dans la pauvreté en Écosse. Il faut qu'on fasse front contre ça.
Et la collecte a été miraculeusement bonne. Déjà 6 autres clubs écossais les ont rejoints.
On ne va pas se reposer sur nos lauriers, alors qu'on a une crise humanitaire dans les rues du Royaume-Uni. Tant qu'il y aura des enfants qui se coucheront le ventre vide. Donc inscrivons le droit d'accès à la nourriture dans la loi et laissons les supporters faire ce qu'ils font le mieux, regarder un match et soutenir leur équipe.
C'était un reportage autour du documentaire intitulé « Le foot solidaire, les bons supporters anglais ». On était en compagnie des réalisatrices Frédérica Zingaro et Mathilde Bonacieux. Ce documentaire a été proposé dans le cadre du FIGRA, Festival international du grand reportage et du documentaire de société, en compétition des films de moins de 40 minutes qui s'est déroulée du 28 mai au 2 juin à Douai. Interview illustrée par des réactions de lycéens recueillies à l'issue de la projection et quelques extraits du film.